Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Anne Toscan-Viudès, Cédric Fuentes, Louis Drillon, Arjuna Andrade et Aliette Tovin. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Jean Frédérics.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Cette semaine, ce sont les relations houleuses entre économie et pouvoir que nous allons explorer. Nous allons tenter en 4 épisodes de répondre à cette épineuse question : qui tient les rênes de l'économie mondiale ? Le sujet ne cesse de diviser penseurs et théoriciens, tant il est vrai que les rapports de force entre États, banques et multinationales se sont transformés au cours des dernières décennies. Jeudi, nous verrons comment la science économique s'est emparée de cette question du pouvoir. Mercredi, nous interrogerons les liens entre doctrine économique et pouvoir politique en Chine et aux États-Unis. Demain, c'est la reconquête du pouvoir par les salariés qui nous intéressera. Mais d'abord, face à l'hyperpuissance des multinationales, que peuvent encore les États ? Voilà la question qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Il est 14h sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Nous allons examiner les rouages du pouvoir des firmes monde en compagnie de Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternatives économiques et auteur du pouvoir des multinationales avec Marie Clouy, en compagnie également de Carole Péchaud, juriste spécialisée dans la responsabilité des multinationales vis-à-vis des droits humains et membre de CCFD Terre Solidaire. En fin d'émission, on retrouvera les nouvelles de l'écho présentées par Arjuna Andrade.
Estamos frente...
Nous sommes face à un véritable conflit entre les multinationales et les États. Ces derniers ne sont plus maîtres de leurs décisions fondamentales, politiques, économiques et militaires, à cause de multinationales qui ne dépendent d'aucun État. Ces multinationales opèrent sans assumer leurs responsabilités et ne sont contrôlées par aucun Parlement, ni par aucune instance représentative de l'intérêt général. En un mot, c'est la structure politique du monde qui est ébranlée. Les grandes entreprises multinationales nuisent non seulement aux intérêts des pays en voie de développement, mais aussi par leur activité asservissante et incontrôlée aux pays industrialisés où elles s'installent. Notre confiance en nous-mêmes renforce notre foi dans les grandes valeurs de l'humanité et nous assure que ces valeurs doivent prévaloir. Elles ne pourront être détruites.
Christian Chavagneux et Carole Péchaud, bonjour.
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 Merci beaucoup d'être avec nous. On vient d'entendre Salvador Allende, l'ancien président socialiste du Chili, qui s'exprimait lors d'un discours à l'ONU en 1972. Alors, dès les années 70, on peut dire qu'on s'inquiète de l'hyperpuissance des firmes multinationales qui s'affranchissent de plus en plus de l'autorité des États.
Christian Chavagneux. Oui, c'est vraiment fin des années 60, tout début des années 70, qu'on commence à avoir, y compris dans la réflexion académique, l'idée selon laquelle il n'y a pas que les États qui écrivent les règles du jeu de la mondialisation. Il y a d'autres acteurs, des acteurs privés. Alors, dans les acteurs privés, il y a les multinationales. On commence déjà à parler du rôle des mafias. Et puis, un peu plus tard, on dira, il y a les ONG aussi. Tout ce monde-là contribue, en fait, à écrire les règles du jeu de la mondialisation. Pas que les États. Et, mais c'est vrai, les années 70, c'est les années où on dit, vraiment, ces multinationales, elles ont un pouvoir important. Je vous renvoie au fameux film avec Patrick Devers, 1000 milliards de dollars. 1000 milliards, c'est quoi ? C'était à l'époque l'estimation du chiffre d'affaires des plus grandes multinationales.
On va voir comment cette situation a évolué. Mais Carole Péchaud, d'abord un premier mot peut-être sur ce discours de Salvador Allende et peut-être nous dire à quel moment sont apparues les premières entreprises multinationales. Selon le philosophe Alain Deneau, elles voient le jour dans le secteur énergétique à l'époque des deux grandes guerres mondiales.
Oui, le discours d'Allende est extrêmement très connu et très utilisé parce qu'il marque en fait le début d'une longue bataille qui n'est pas achevée. On pourra continuer à en parler évidemment dans l'émission, puisqu'aujourd'hui à l'ONU se joue encore la question de la régulation des multinationales. Allende a une fin tragique, comme vous le savez, et suite à son décès, le projet de normes, qui était un des premiers projets onusiens, donc international d'encadrement contraignant de ces acteurs transnationaux a évidemment échoué, on en parlera par la suite, par Kofi Annan et autres intervenants onusiens, mais également par le poids évidemment et la puissance de ces acteurs transnationaux qui ne voulaient pas et ne veulent toujours pas être encadrés par le droit.
Et alors sur l'apparition, peut-être Christian Chavagneux, des premières entreprises multinationales.
Bah, c'est très ancien, hein, 15e, 16e siècle. On peut déjà voir, c'est des monopoles d'État en fait à l'époque, hein, et qui essayent en même temps, qui sont très très proches des États politiquement, et en même temps qui veulent se garder leur indépendance, sont des vraies puissances coloniales en fait. Hein. On pense à la Compagnie des Indes, on pense à la VOC, la grande multinationale hollandaise. On pense en France au 18e siècle, hein, à John Law qui veut absolument établir une grande... Il veut faire de la France une grande multinationale. Et puis, on a alors fin 19e siècle, déjà les Siemens, les Singer. J'ai retrouvé des livres absolument fabuleux, écrits en Angleterre. Un disant, mais avec la puissance des États-Unis et des multinationales américaines, on est en train de se faire manger. L'autre disant, mais avec la puissance des grandes multinationales allemandes, l'Europe est en train de se faire manger complètement par ces multinationales. Donc, vous voyez, fin 19e, début 20e, on a déjà ces grandes entreprises. Et puis, dans la période contemporaine, bien sûr, plutôt les années 60-70.
Alors, ce qui est peut-être inédit, Carole Péchaud, c'est qu'aujourd'hui, il y a non seulement de plus en plus de multinationales, mais surtout, elles sont de plus en plus puissantes. Et alors, c'est peut-être lié à un phénomène de concentration économique.
Il y a un phénomène de concentration économique, effectivement, et ça, Christian Chavagneux donnera des chiffres bien plus précis que les miens, mais on sait aujourd'hui que, comme vous l'avez dit, sur 100 entités économiques, alors c'est pas très précis en économie, justement, il y a 69 entités qui... les plus puissantes qui sont des multinationales. On sait également qu'il y a 80% du commerce mondial qui se fait intra-firme. Donc on voit qu'il y a une concentration du pouvoir, des entreprises de plus puissantes que des États. Mais en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est comment se frottent en fait ces acteurs transnationaux à l'acteur État. Et comment on définit les enjeux et les rôles de chacun. Et c'est là tout l'objet de notre discussion. Qu'est-ce qu'un État, quel est son rôle et comment est-ce qu'il doit se frotter ou pas à une entreprise privée transnationale?
C'est en tout cas une situation inédite, Christian Chavagneux, le fait que par exemple l'entreprise Walmart soit au 10e rang mondial, pas très loin derrière la France, le fait que Apple soit le 25e, la 25e puissance économique derrière la Belgique, la Belgique, pardon.
On compare, quand vous comparez la PIB, le PIB, la richesse produite par un pays et puis le chiffre d'affaires du multinational, on compare pas vraiment les mêmes choses. Moi, je suis pas très partisan de ces classements. Apple est plus gros que la France, voilà quoi. C'est comme l'a dit Carole, c'est le vrai sujet, c'est dans quelle mesure ces acteurs qui sont a priori des acteurs privés qui poursuivent un intérêt privé sont capables d'écrire les règles du jeu qui vont s'imposer à l'ensemble des autres acteurs, y compris les acteurs étatiques. Et là, on rentre dans un combat politique, un combat de rapport de force. Et c'est vraiment ça le pouvoir des multinationales. C'est pas tellement qu'il y en a beaucoup, qu'elles sont de plus en plus internationalisées, c'est qu'elles sont capables d'écrire les règles du jeu dans lesquelles les autres acteurs vont être obligés de s'inscrire.
Alors justement, je vous propose d'écouter l'économiste Jacques Généreux. Pour lui, cette globalisation des firmes remet en cause les intérêts de la nation.
C'est ce que j'appellerais la fin du modèle du champion national. C'est qu'on ne peut plus raisonner comme autrefois dans l'idée qu'il suffit finalement d'avoir dans chaque industrie, dans chaque secteur, quelques grandes entreprises qui sont nos champions, que l'on va aider, que l'on va stimuler, pour avoir finalement, globalement, quelque chose qui profite à la nation. Autrement dit, il y a une divergence désormais entre l'intérêt des grandes entreprises multinationales et l'intérêt des nations dont elles sont issues. Elles ne raisonnent plus en fonction simplement de leurs intérêts locaux. Elles peuvent raisonner à une échelle globale, aussi bien en matière d'emploi qu'en matière d'investissement, de localisation de leurs activités, etc.
Voilà, Jacques Généreux nous parle de la fin du modèle du champion national. Pour autant, est-ce qu'il faut considérer que les multinationales n'ont pas de nationalité, Christian Chavagneux ?
Il y a vraiment deux choses dans ce qu'a dit Jacques Généreux. Une partie avec laquelle je suis d'accord. Hein. Aujourd'hui, il y a à peu près 100 000 multinationales dans le monde, 800 000 filiales. Au début des années 90, il y avait 37 000 multinationales. On est passé 37 000 à 100 000, multiplié par 3, et elles avaient 70 000 filiales. Donc là, on se dit, voilà, ce sont des gros machins qui sont présents partout dans le monde. Pourquoi il y a autant de filiales ? Pour deux raisons. raison. La première, elles organisent des chaînes de valeur ajoutée mondiale. C'est-à-dire qu'on, quand on fabrique un iPhone, on fait la caméra en Corée, l'écran à Taïwan, etc. On va tout assembler en Chine. Donc, il y a des petits bouts de territoire, chacun un petit bout de richesse. Ça, c'est une partie des filiales. Et l'autre partie, c'est ce que les chercheurs anglo-saxons appelaient des chaînes de richesse mondiale. Là, on fait circuler l'argent des multinationales et c'est déconnecté de l'activité réelle. Et on pourra en reparler sûrement, mais ça fait entrer en jeu des circulations déconnectées de l'activité réelle. Pourquoi ? Pour échapper aux réglementations et notamment pour échapper au fisc. Donc cet ensemble de multinationales fait que ces entreprises, elles sont a priori déconnectées, comme l'a dit Jacques Généreux, des intérêts nationaux. En même temps, quand on regarde comment fonctionne une multinationale, à part quelques exemples, elles ont un patron de leur pays d'origine. Elles se financent essentiellement dans leur pays d'origine. C'est vrai qu'on peut être coté en bourse en Europe et être coté en bourse aux États-Unis, mais globalement, même ces multinationales, elles se financent plutôt dans leur pays d'origine. Les relations privilégiées avec les États, c'est avec l'État de leur pays d'origine. Avec les syndicats de leur pays d'origine, etc. La recherche et développement, oui, il y en a un peu partout dans le monde, mais surtout dans leur pays d'origine. Donc oui, elles sont multinationales, elles ont des intérêts mondiaux qui dépassent les intérêts nationaux, et en même temps, de par leur histoire, elle reste très nationale.
Et alors, sur cette nationalité à des entreprises multinationales, Carole Péchaud ?
Oui, donc en fait, ça dépend. Et effectivement, il y a des visions différentes entre les économistes et les juristes en droit, mais c'est normal, puisque on est dans un aspect mondialisation. Donc, dans le parler des gens, on voit bien que Total, est-ce que c'est français, est-ce que c'est pas français, en fonction de son actionnariat, de ses implantations au niveau monde. Ça paraît une question complexe. En droit, on a résolu la question en France, en tous les cas, en disant que c'est le siège social qui est le critère de rattachement juridique de l'entreprise à un État. Ce qui veut dire que indépendamment du reste, on va dire, même s'il y a beaucoup d'autres critères de rattachement qui pourraient être pris en compte. En France, on a décidé que c'était celui-là. C'est important. Pourquoi ? Parce que comme l'a dit Christian Chavagneux, la structuration des multinationales est de plus en plus complexe, notamment si on prend en compte toute leur chaîne de valeur. Et la question qui se pose en droit notamment, c'est la question de sa nationalité. Pourquoi ? Quelle loi est applicable ? Évidemment, quel juge est compétent ? Évidemment, et ça on en reparlera, mais c'est très important, quand on est implanté partout. Et la question qu'on va se poser ensemble, c'est comment les victimes peuvent attaquer une entreprise basée en France, donc siège social en France, donc française, alors même qu'elles ont été victimes d'une des filiales. Et là, on va rentrer en fait dans la problématique et la complexité d'encadrer ces acteurs transnationaux, du fait de ce qu'on appelle le groupe de sociétés, qui en droit n'existe pas, il existe économiquement, et donc il y a une asymétrie entre l'économie et le droit, puisque en économie, et Christian Chavagneux le dira, le groupe de sociétés est une entité financière qui fonctionne ensemble en fait. Alors qu'en droit, chaque entité du groupe, donc société mère ou filiale, vont être des entités juridiques distinctes. Donc l'idée vraiment, c'est de parler de cette notion de groupe, de minimiser la symétrie droit-économie et de traiter la entreprise transnationale comme un groupe de sociétés plus une chaîne de valeur, puisque comme on l'a vu, 80% du commerce se fait dans la chaîne de valeur.
On va revenir bien sûr sur ces questions juridiques, mais je vous propose d'abord d'écouter le philosophe québécois Alain Deneau. Pour lui, le pouvoir des multinationales est tel qu'elles échappent à toute forme de contrôle.
Mais je me suis intéressé au fait que les multinationales ne sont plus seulement des entreprises, ce sont des pouvoirs. Il faut les aborder ainsi. Ce sont des pouvoirs qui exercent une autorité d'un genre nouveau, qui n'ont d'intérêt que les leurs et qui se sont affranchis à la manière de Frankenstein des États qui les ont rendus possibles dans l'histoire. Et aujourd'hui, vous avez ces réseaux de structures que sont les groupes qui existent hors de toute structure législative nationale. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on aborde la question d'une multinationale, il faut tout de suite la penser sur un mode pluriel, considérer qu'elle est réfractée dans un très grand nombre de pays, d'où qu'on l'appelle une multinationale, dans des législations qui, même si on le voulait, ne sont pas capables de voter des lois, des règlements, des mesures qui sont de la même portée que celle de la multinationale. C'est-à-dire que la multinationale évolue sur une échelle qui est hors de portée des différentes législations. Je trouve ces filiales. Et on a développé ces pouvoirs qui, aujourd'hui, signent des accords, comme celui de la COP21, sont reçus par Vladimir Poutine, par exemple, à la manière de chef d'État, peuvent poursuivre devant des mécanismes de règlement différents des États pour régler des affaires contractuelles, comme si elles étaient hors de toute conjoncture. On l'a vu en Argentine par rapport à la crise économique grave de 1990, où en poursuivant le gouvernement, on faisait comme si les entreprises, les grandes entreprises, ne devaient pas subir les conséquences de la crise, mais seulement tous les autres acteurs. Et le reste, vous avez ensuite des groupes qui vont financer des associations culturelles, des musées, des championnats de football, et pour toujours se rendre en quelque sorte indispensable à différents titres.
Voilà, on a entendu Alain Deneau qui nous dit que les multinationales ne se heurtent à aucune limite ou presque. Alors, est-ce que vous partagez ce point de vue, Christian Chavagneux? Et est-ce que, selon vous, il faut vraiment penser le rapport entre les États d'un côté et les multinationales de l'autre comme un rapport d'opposition systématique? Est-ce qu'il n'y a pas en réalité une interdépendance entre les États et les grandes firmes?
Je pense qu'il y a plutôt une hybridation qu'une opposition frontale. On le voit historiquement, les multinationales sont plutôt plus proches des États et plutôt bien contrôlées par les États. C'est en gros les années 40 aux années 70. Là, le balancier est parti de l'autre côté. Les multinationales, effectivement, ont eu la capacité, comme jamais, d'écrire la loi internationale. Mais quand les Peruzzi, tous les grands banquiers italiens définissaient la circulation monétaire ou financière dans l'Europe du 15e, du 16e, du 17e siècle, ils étaient aussi en dehors largement du pouvoir des États, tout en les finançant. Donc, c'est historiquement, je pense qu'il y a plutôt un balancier d'hybridation, plutôt plus proche et bien contrôlé par les États, plutôt moins proche. Aujourd'hui, on est plutôt de ce côté-ci du balancier.
Et plutôt que de parler d'opposition, peut-être qu'on pourrait parler d'une perpétuelle négociation, Carole Péchaud.
Alors, pour moi, Alain Deneau est quelqu'un de très intéressant, déjà parce qu'il insiste énormément sur le fait qu'une entreprise transnationale est un acteur politique, comme un État, en fait. Bien sûr. Ça, c'est, à mon sens, quelque chose qu'il faut garder en tête. Et ce qui est intéressant dans son analyse, c'est qu'il dit que ce sont les transnationales qui font le droit. Donc ce n'est pas les États, mais les transnationales qui font le droit. Donc ça, c'est très intéressant également. On connaît la production normative du secteur privé par l'autorégulation, des codes de conduite, on pourrait y revenir. Mais là, ils font le droit dur. Et donc ce qui est intéressant dans l'analyse d'Alain Deneau, c'est que effectivement il y a non seulement hybridation, mais ce qu'on a pu appeler à un moment donné la capture démocratique par les entreprises privées, donc la capture finalement... de l'État, mais c'est pas de l'État, c'est la capture de la démocratie, c'est-à-dire de nous citoyens. Mais l'État est complice. Et c'est l'analyse de Deneau, et notre analyse également dans beaucoup de cas. Les États ne sont pas capturés par les transnationales, ils ne sont pas victimes des transnationales. Après, ça dépend de quels États on parle, et on pourrait y venir aussi. Mais les États du Nord, qui sont majoritairement, alors le Nord maintenant c'est différent, mais Nord, Chine, Inde, enfin les BRIC, qui sont les détenteurs de la majorité des sièges sociaux des grandes transnationales, sont complices en fait de ce qu'on appelle l'architecture de l'impunité, donc du fait qu'on n'arrive pas légalement à attaquer des entreprises.
Alors justement, prenons un petit peu des cas concrets pour mieux comprendre, et notamment comprendre ces phénomènes de concentration et de fusion qui renforcent le pouvoir des multinationales. Aux États-Unis, les lois antitrust visent notamment à empêcher les monopoles d'abord pour que les consommateurs ne soient pas pénalisés. Or, selon le directeur du think tank Open Market Institute, Barry Lynn, l'arsenal des lois antitrust n'est plus suffisant pour contrôler ces monopoles, en particulier depuis les années 80 et le mouvement néolibéral, influencé par les idées de l'école de Chicago. Alors, qu'en pensez-vous, Christian Chavagneux? Est-ce que vous diriez que ces lois ne sont plus adaptées?
Si vous permettez, je refais un petit peu d'histoire. 1890, c'est le Sherman Act. C'est vraiment la première loi aux États-Unis où on dit, attention, il y a trop de concentration. Et suit derrière les 15 années qui suivent le Sherman Act, derrière, il y a un phénomène de concentration extrêmement fort aux États-Unis. Donc, on se dit, ça sert à rien. Et puis, Theodore Roosevelt arrive et il dit, Standard Oil, on va l'éclater, American Tobacco, on va l'éclater. Pourtant, c'était des entreprises qui étaient très liées, très interconnectées, et pourtant, ça a été possible. Ces deux grandes multinationales américaines ont été cassées. Derrière, juste après la guerre de 14, il y a le Clayton Act, qui est normalement la chose qui doit permettre de mettre en pratique vraiment le Sherman Act. Et là, c'est pareil. Derrière, suit 20 ans de spéculation boursière, 20 ans de spéculation de concentration. Là, c'est le cousin, l'autre Roosevelt, Franklin Roosevelt, qui arrive et qui renforce de manière magistrale. On passe de 35 juristes à peu près 250 juristes pour casser les grands monopoles, la grande concentration aux États-Unis. Tout ça marche jusqu'aux années 80, et vous l'avez dit, à partir des années 80, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, je dirais jusqu'au début des années 2000, on laisse faire les concentrations, y compris jusqu'à Barack Obama, on peut dire, aux États-Unis. Et pourtant, dans le même temps, va y avoir une concentration, une recherche des formes les plus graves, je dirais, de concentration, les cartels par exemple, aussi bien du côté américain que du côté européen, où là on va vraiment un peu plus s'attaquer à la fois sur le plan académique et sur le plan juridique et sur le plan politique à ces concentrations.
Il y a des élus démocrates comme les sénateurs Elizabeth Warren ou Bernie Sanders qui comparent depuis longtemps les GAFA, les géants du numérique, au monopole du rail, justement de la fin du 19e siècle. Alors donc, est-ce que c'est une comparaison qui vous paraît pertinente, et est-ce que vous croyez qu'une nouvelle politique antitrust pourrait être mise en place aux États-Unis?
En même temps, on peut se poser la question, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait une multitude d'infrastructures pour refaire Google, par exemple? ou une seule suffit. En fait, une seule suffit. Moi, il faut la logique économique. Il faudrait nationaliser Google. En fait, on ne va pas réinvestir chacun des États pour reconstituer l'ensemble de cette infrastructure mondiale qui fonctionne plutôt bien. L'idée, pour casser ce monopole, c'est pas casser Google, c'est plutôt de monopoliser, c'est plutôt de nationaliser Google. Et quand vous avez des entreprises comme Amazon qui font un jour du commerce, un jour autre chose, un jour autre chose, ou même Google qui fait un jour de la santé, un jour de la voiture autonome et un jour du moteur de recherche, là peut-être que oui, il faut essayer de casser ces multinationales. C'est un grand débat aux États-Unis. Il y a deux livres qui viennent de sortir qui font un tabac aux États-Unis, qui dénoncent exactement ce que vous avez dit. Les politiques antitrust ne fonctionnent pas, la concentration est trop forte. Avec une liste d'études, moi j'ai été très impressionné, une liste d'études académiques qui nous montrent tous les méfaits de la concentration du pouvoir en termes d'inégalité salariale, en termes de contournement des réglementations, etc., etc. La liste est très longue. C'est un grand débat. C'est la bonne nouvelle qui est ouverte aux États-Unis aujourd'hui.
Et puis, il y a cette question, effectivement, des conséquences sur le consommateur et aussi des conséquences sur l'innovation. Ce qui se dit beaucoup, c'est que le monopole de Google empêcherait des innovations de voir le jour.
Oui, tout à fait. Ça fait partie des arguments qu'on a dans ces deux livres qui sont sortis. Il y a vraiment eu des études très, très claires qui montrent que le niveau d'innovation baisse au fur et à mesure que le niveau de concentration augmente dans une économie.
Alors, on a parlé des États-Unis. Peut-être qu'on peut dire un mot de la France. Comment est-ce que les fusions d'entreprises, les concentrations d'entreprises sont contrôlées? On n'a pas les mêmes lois antitrust en France.
On n'a pas les mêmes, parce que déjà, nous, on l'organise au niveau européen. Le droit de la concurrence est organisé en Europe au niveau européen. Et là, on peut dire que Margrethe Vestager a quand même fait des choses plutôt intéressantes pour remettre en cause les pratiques les plus douteuses. Tout en même temps, en France, on a vraiment un exemple de ces jours derniers. Est-ce que Siemens et Alstom vont pouvoir fusionner pour créer un géant européen sur du rail? Du côté des entreprises, bien sûr, on dit il faut le faire, c'est un géant européen. Du côté de la commissaire à la concurrence, on dit ouh, attention, vous êtes en train de nous recréer un gros monopole qui n'est pas forcément au service des consommateurs. Voilà, c'est ce type de débat qu'on a en Europe, mais qu'on a aussi maintenant, je pense, aux États-Unis.
Et alors, plus largement, pour gagner en influence et en puissance, les firmes multinationales ont recours à des ententes entre elles. Vous avez parlé des cartels. C'est le fameux capitalisme d'alliance dont parlait l'économiste américain John Dunning à la fin des années 90, Carole Pechaud.
Sur ces questions vraiment d'entente, etc., c'est assez courant. Enfin, les ententes sont malheureusement courantes dans pas mal de domaines, notamment les télécommunications. Je rejoins Christian Chavagneux sur le fait que, pour l'instant, au niveau de l'Union européenne, la direction de la concurrence a quand même pas envie de se faire passer pour quelqu'un qui se fait manger par les multinationales. Donc, symboliquement, pour l'instant, elle maintient quand même une distance. Et donc, on verra ce qui se passera, notamment avec le rail.
Le problème, c'est comment vous arrivez à contrôler ça. On a à peu près un peu plus de 10 milliards d'amendes aux États-Unis sur 2010, 2016, 2017. 15 milliards d'amendes contre les cartels en Europe. Donc on se dit, voilà, alors qu'avant c'était tout petit. On dit, enfin, les autorités de régulation s'y mettent vraiment. En même temps, vous avez des chercheurs qui vous disent, compte tenu de ce que rapporte l'organisation d'un cartel, il faudrait multiplier à peu près par 7 le préjudice subi par l'économie pour vraiment que le contrôle soit efficace. Si vous multipliez par 7 ce que le cartel vous a volé parce qu'il s'est entendu sur les prix, vous faites exploser grand nombre d'entreprises. Donc on n'a pas vraiment les moyens économiques de contrôler les cartels, sauf à leur imposer des amendes démentielles. Ce qui fait qu'aux États-Unis, il y a une piste qui commence à être creusée et qu'on devrait peut-être creuser en Europe, qui consiste à dire on va imputer la responsabilité juridique du cartel aux dirigeants, et donc peut-être qu'on va poursuivre individuellement, non plus la personnalité morale pour lui mettre une amende, mais individuellement les chefs d'entreprise, et ça fait partie d'un débat plus général aujourd'hui qu'on a en France, qu'on a aux États-Unis. Comment est-ce que la responsabilité du chef d'entreprise est aujourd'hui prise en compte, y compris quand on a un patron de multinationale?
Cela pose effectivement un certain nombre de questions, Carole Pechaud. On voit que les scandales se multiplient autour des cartels. On a des amendes, comme vous le disiez, Christian Chavagneux, de plus en plus importantes, et pourtant ça continue. Dans la dernière affaire en date, fait état d'un cartel du jambon sur lequel enquêterait l'autorité de la concurrence, c'était encore il y a quelques semaines.
Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant dans ce que dit Christian Chavagneux, c'est justement la responsabilité des dirigeants, qui est une proposition que la société civile porte depuis très longtemps. En France, on l'a toujours pas, mais pour ce qui est à l'ONU, c'est une des demandes de la société civile, à savoir qu'il y ait à la fois une responsabilité de la personne morale, mais qu'elle puisse être responsabilité, puisse être solidaire avec des personnes humaines, on va dire, physiques.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Dreaming,
People Have the Power de Patti Smith. Entendez-vous l'écho sur France Culture. Nous sommes toujours avec Christian Chavagneux et Carole Péchaud pour parler de l'hyperpuissance des multinationales. Alors le pouvoir des multinationales s'exprime aussi à travers des stratégies d'optimisation fiscale que l'on connaît bien et sur lesquelles un certain nombre de scandales ont éclaté ces dernières années. On assiste en fait de la part de ces entreprises à un usage abusif du droit, Christian Chavagneux.
Ah, ça c'est très très clair. Je le disais en introduction de l'émission, une partie des filiales qui appartiennent aux multinationales ne sont là que pour transférer artificiellement des prêts, soit des profits. L'idée est vraiment très claire, l'idée juridique hein, plus qu'économique, c'est d'arriver à déconnecter le lieu où une transaction économique ou un profit est fait pour une multinationale et le lieu où va être enregistré et taxé. Et ça, c'est le principe même du paradis fiscal, c'est d'offrir les lois qui vont permettre à ces multinationales de valider juridiquement ces stratégies. Gabriel Zucman, qui est un économiste français qui est aux États-Unis aujourd'hui, nous dit que, d'après son estimation, 40% des profits des multinationales sont aujourd'hui dissimulés dans les paradis fiscaux. Donc on a vraiment affaire à des montants énormes. La bonne nouvelle, quand même, c'est que le G20, enfin, s'est saisi du sujet. Alors on peut discuter de savoir si c'est efficace ou pas. Il y aura un bilan fait en 2020, et tant mieux. Enfin, une politique publique mondiale pour laquelle on va nous proposer un bilan. Mais il y a vraiment des choses positives qui sont faites pour lutter enfin contre ces pratiques d'abus de droit pour de la part des multinationales en matière fiscale.
Alors avant de voir si cela pourrait être mis en place à un niveau mondial, on peut voir que déjà en France, la taxe GAFA devrait être mise en place en 2019, et cela sans attendre un consensus européen, même si pour l'heure, ce qu'on peut dire, Carole Péchaud, c'est qu'il y a une volonté française de mettre en place cette taxe, mais aucun texte n'a véritablement été voté.
Au-delà de la taxe GAFA, donc déjà rappeler que effectivement il y a 40% des profits qui sortent, mais que en France le montant de l'évasion fiscale, qui est très compliqué à chiffrer bien sûr puisqu'il est opaque par définition, s'élève, les fourchettes vont de 30 à 60 milliards d'euros par an pour la France. Hein. Donc aujourd'hui on parle d'impôts dans le contexte actuel français. J'ai regardé rapidement, mais Christian Chavagneux me corrigera, 60 milliards c'est plus que l'impôt sur les sociétés. Juste pour qu'on ait une idée, et ça représente à l'échelle européenne 50% des dépenses publiques pour l'enseignement supérieur. Donc voilà ce qu'on perd, ce que les citoyens perdent à cause de pratiques effectivement abusives ou illégales, et justement de cette architecture de l'impunité qui est la même hein, pour l'évasion fiscale comme pour la violation des droits humains, à savoir que les États, en complicité ou pas avec des acteurs transnationaux, ne vont pas mettre en œuvre des cadres légaux qui permettraient de réguler. Un exemple rapidement, avant la taxe GAFA, et je laisserai la parole à Christian Chavagneux là-dessus, il y a eu la loi Sapin 2 qui a tenté, il y a eu des tentatives en France d'avoir une transparence pour pouvoir voir où se dégageaient justement ces profits, où est-ce qu'ils partaient se cacher dans les paradis fiscaux, entre guillemets. Il y a eu des tentatives d'avoir un reporting qu'on appelle pays par pays. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces propositions législatives ont été votées par l'Assemblée nationale, donc par la représentation populaire, on va dire, du peuple, et ont été ensuite censurés par le Conseil constitutionnel, qui estimait que ça allait à l'encontre de ce qu'il appelle la liberté d'entreprendre, qui aujourd'hui est quelque chose qui est érigé parfois au-dessus des droits de l'homme, des droits humains, ouais. D'autres droits sociaux qui, à mon sens, sont beaucoup plus importants. Et donc, vous voyez, c'est ça qui est complexe, en fait. C'est qu'on a un problème qu'on a identifié. On sait combien ils coûtent, on sait combien ça nous coûte. Alors là, on parle de la France, mais les pays en développement, c'est encore plus dur pour eux, hein, parce qu'on les dépouille complètement d'une assise fiscale pour impulser des politiques publiques. Et face à ça, que font nos États? Et on voit que nos États, même lorsque le processus législatif va jusqu'au bout, les pressions, telles qu'elles soient, privées, publiques, font en sorte que, in fine, on n'aboutit pas à une régulation efficace.
Alors justement, la taxe GAFA prévoit de taxer donc les chiffres d'affaires des géants du web à hauteur de 3% pour l'année 2019. Donc ce sont les chiffres d'affaires et non plus les bénéfices. Alors est-ce que cette taxe vous paraît aller dans le bon sens, Christian Chavagneux? Est-ce qu'elle pourrait avoir le jour?
On a un niveau de ridicule total là, de la part de Bruno Le Maire, pardon, monsieur le ministre, mais il est parti avec déjà une mauvaise idée. Il y a des négociations qui sont faites aujourd'hui au niveau du G20 pour essayer de taxer toutes les multinationales, pas seulement les multinationales du numérique. Le résultat, il n'y a pas d'accord aujourd'hui, il n'y a pas de consensus entre ce que veulent les Américains, ce que veulent les Japonais, les pays émergents et ce que veulent les Européens. Donc on a repoussé le consensus à 2020. Qu'est-ce qui se passe en 2019? En mai 2019, on a des élections européennes. Donc Emmanuel Macron a dit à son ministre des Finances, il faut que tu montres qu'on fait quelque chose au niveau européen sans attendre 2020, puisque les échéances européennes, c'est 2019. D'où la proposition de taxe sur le chiffre d'affaires de l'ensemble des multinationales du numérique de 3%, avec avec un véritable intérêt de dire que même si ces multinationales ne sont pas implantées en Europe, à partir du moment où elles font du business en Europe, elles devront être taxées en Europe. Parce que la France a poursuivi Google pour 1,1 milliard, le fisc français s'est fait retoquer par la justice en disant vous n'avez pas, enfin Google n'a pas de présence effective en France, donc vous ne pouvez pas la taxer, vous ne pouvez pas le faire de redressement fiscal. Sauf que comme les Allemands n'en voulaient pas, peur que les Américains, en rétorsion, imposent des taxes sur les voitures allemandes, que les pays du nord de l'Europe n'en voulaient pas parce qu'ils sont trop atlantistes, et que ni l'Irlande, ni le Luxembourg, ni les Pays-Bas, qui sont des paradis fiscaux installés au cœur de l'Europe, n'en voulaient. Comme il faut l'unanimité, vous voyez bien que vous avez déjà les deux tiers des pays qui n'en veulent pas. Donc la France s'est rabattue sur une taxe non plus sur les géants du numérique, sur les recettes de publicité. Ce qui fait que la taxe à 3%, dont on n'a toujours pas vu le texte, portera uniquement, en gros, sur Google et Facebook, et toutes les autres multinationales du numérique ne verront rien. Donc on est vraiment à un niveau extrêmement ridicule. Et la dernière estimation sur combien on perd finalement, c'est plutôt 80 à 100 milliards de septembre dernier. Donc c'est encore plus que ce que disait Carole tout à l'heure. Plus et c'est vrai qu'il faut souligner et ressouligner, comme elle l'a fait, que le Conseil constitutionnel a été l'un des agents bloquants extrêmement fort ces 3-4 dernières années. À chaque fois qu'on a avancé au niveau parlementaire, c'est pas évident de faire bouger les parlementaires. Ils ont bougé ces dernières années. À chaque fois qu'on a réussi à faire voter des choses, le Conseil constitutionnel nous a retoqué. D'où la proposition de la députée européenne Eva Joly de dire il faut inscrire au niveau constitutionnel le fait que payer ses impôts, c'est aussi important que défendre les droits humains, aussi important que défendre le droit de la concurrence. Ça me paraît une bonne avancée.
Alors, donc, pas de consensus politique au niveau européen, encore moins au niveau mondial. Mais alors, l'OCDE travaille tout de même sur ce projet qui vise à obliger les multinationales à fournir dans chaque pays où elles disposent de filiales à la fois leur chiffre d'affaires, le nombre de personnes employées, la masse salariale, les profits réalisés et les impôts payés. L'objectif de ce système, ce serait de montrer la différence entre les impôts payés d'une part et l'activité économique réelle dans ce pays.
Oui, bien sûr, c'est tout à fait ça l'objectif. On l'a voté en France et au niveau européen pour les banques. Donc c'est non seulement effectif, mais c'est public. Donc évidemment, les banques mettent ça sur des PDF, sur des centaines de filiales. Il faut tout ressaisir à la main sur des fichiers Excel pour faire les calculs. Mais les ONG l'ont fait. Et à chaque fois, on s'aperçoit que pour les grandes banques françaises, c'est à peu près un quart des profits réalisés à l'international qui sont, par les grandes banques françaises, qui sont réalisées dans les paradis fiscaux. Le travail a été fait pour les 20 plus grandes banques européennes. C'est pareil, on retrouve exactement la même chose. Donc, ce que vous avez signalé, qui est le projet BEPS, qu'on appelle le Base Erosion and Profit Shifting, pour le projet de l'OCDE, ça va être mis en place, mais l'information est réservée au fisc. Et donc, nous, journalistes, nous, membres d'ONG, on ne peut pas avoir ces informations. Mais oui, ça va dans le bon sens.
Et alors, le problème que vous soulignez tout à l'heure, Carole Péchaud, c'est donc que ces multinationales ne sont pas des sujets de droit en tant que telles. Ce sont donc leurs filiales qui sont responsables juridiquement dans le pays où elles sont implantées. Mais toutefois, la loi sur le devoir de vigilance, adoptée en France en 2017, a constitué une réelle avancée sur ce point. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer dans quel contexte cette loi a été mise en place ? Est-ce que elle a apporté véritablement d'innovants.
Alors tout à fait, donc c'est une loi qui a été votée en 2017, en mars 2017, et qui est le fruit d'un long combat législatif mené par une coalition d'associations et de syndicats qui a duré tout le mandat du président Hollande. C'est une loi qui était déjà dans les têtes de pas mal d'associations, mais en fait elle s'est basée sur une promesse de François Hollande de justement pallier à cette irresponsabilité de la société mère pour les dommages commis par ses filiales.
Je précise que c'est arrivé après la catastrophe du Rana Plaza, dont on se souvient qu'elle avait fait 1134 morts en avril 2013 au Bangladesh.
Tout à fait, les drames sont à chaque fois des accélérateurs, malheureusement. Mais il y en a d'autres, des drames. Mais bien sûr, c'est suite à ce drame-là.
Ce drame a marqué par son ampleur, même si
tout
effectivement...
Tout à fait, par son ampleur et par le fait que ça montre, de façon très imagée, les dégâts faits par des entreprises qui veulent, à bas coût, produire des choses très loin par leurs filiales ou sous-traitants. Donc, c'était une image qui a boosté, en fait, ce combat. Donc, à partir de avril 2013, vous l'avez rappelé, le drame du Rana Plaza. Et s'en est suivi 4 années de travail avec des députés amis, puisque à partir de 2013-2014, il y a une proposition de loi qui a été déposée par à l'époque la députée Danielle Auroi, qui était Europe Écologie Les Verts, qui a été rejoint en fait par toute la gauche parlementaire de l'époque, puis par la majorité des centrales syndicales également. Le texte a connu une deuxième version, puisqu'à l'époque il a été retiré, jugé trop ambitieux. On pourrait y revenir sur ce qu'on a perdu ou pas dans cette loi. Il y a une deuxième version qui a été déposée en 2015, et de 2015 à 2017, on a eu ce qu'on appelle une bataille féroce, à la fois parlementaire, mais également
notamment avec nos opposants politiques dans les ministères, mais également dans les entreprises multinationales, avec des va-et-vient, ce qu'on appelle la navette parlementaire, avec le Sénat qui a évidemment tout fait pour que cette loi ne voie jamais le jour. On reviendra sur les péripéties, si ça vous intéresse, il y en a beaucoup. Mais ce qui est sûr, c'est que cette loi a été une des dernières votées de la mandature Hollande, et que c'est la première au monde, donc ça c'est très important, c'est la première loi au monde qui crée une obligation juridiquement contraignante qui pèse sur les sociétés basées en France, sociétés mères basées en France, qui les oblige à être préventives, donc on n'est pas trop méchant quand même, mais c'est une première. Donc on va obliger légalement...
Mais ça c'est très nouveau, le fait qu'elle vise à prévenir les risques d'accident.
Tout à fait. En fait, ce qui est nouveau, mais on y reviendra, c'est le caractère contraignant, puisqu'avant nous évoluions, et nous évoluons toujours à part cette loi française, dans un contexte de soft law, et donc de droit dit mou, qui n'a pas de dents, entre guillemets, puisque son non-respect ne comporte pas de sanctions. Donc la loi française est la première loi au monde à instaurer un droit dur, donc contraignant, qui vise à responsabiliser les donneurs d'ordre, donc les sociétés mères, vis-à-vis de leur groupe de sociétés, donc comme on a dit, toutes les filiales contrôlées directement ou indirectement, qui font groupe au sens économique, plus toute la chaîne de valeur, dont on a dit qu'elle était très importante de jouer dans l'économie mondiale, qui comprend les sous-traitants et les fournisseurs avec lesquels l'entreprise a une relation commerciale dite établie. Et donc, en gros, il y a une obligation dite de vigilance qui est toute nouvelle, toute neuve, qui arrive. Cette obligation, elle recouvre quoi ? Faire un plan de vigilance. Alors, ce plan, il y a plusieurs items qui doivent rentrer dedans. Tout est dit dans la loi. Et donc, l'obligation, c'est de faire un plan. Donc l'établir, le publier, donc le rendre public pour lutter contre l'opacité et que les victimes éventuelles aient accès à l'information, le mettre en œuvre de façon effective et ensuite tous les ans voir en face de tes risques identifiés comment l'entreprise va y pallier.
Et alors justement, quelles sont les sanctions qui vont être prévues alors, en cas de non-respect
il y a deux mécanismes qui vont pouvoir jouer dans cette loi. Il y a un mécanisme qui est indépendant de la survenance d'un dommage, qui est que l'entreprise qui ne respecte pas la loi, c'est-à-dire qu'elle n'établit pas son plan, elle ne le rend pas public, elle ne met pas en œuvre, elle peut être mise en demeure de le faire par un juge français qui va, là, par des biais d'astreinte, la forcer à le faire. Et ensuite, s'il y a dommage, donc dans un deuxième volet, alors, et c'est là où ça peut être compliqué, mais c'est quand même intéressant, s'il y a dommage, il faut que la victime, donc ça c'est quelque chose qu'on a perdu, la charge de la preuve incombe encore à la victime, on reviendra sur les raisons après peut-être. Et donc la victime doit prouver que le dommage est lié, le lien de causalité c'est que le plan n'a pas été fait, ou que le plan n'a pas été publié, ou que le plan n'a pas été mis en œuvre de façon effective, et donc il a été défaillant. Et donc la défaillance du plan provoque un dommage. Si on trouve ce lien, on peut attaquer, et la nouveauté c'est qu'on attaque devant un juge français, avec une loi française.
Alors du côté des entreprises, on dénonce des contraintes réglementaires supplémentaires qui nuisent à la compétitivité. Écoutons l'ancien président du MEDEF, Pierre Gattaz, c'était en mars 2015.
Attention de nouveau à toutes les contraintes, les obligations, les sanctions, et je reviens toujours à la même chose, françaises qu'on pourrait imposer à des entreprises alors qu'on évolue dans le monde entier avec des concurrents venant du monde entier. Donc moi je suis pour des mesures bien évidemment, mais il faut au minimum qu'elles soient au niveau européen et idéalement au niveau de l'OCDE. Et imaginez, c'est en fait l'idée, c'est d'aller au-delà de l'entreprise elle-même, de ses filiales, c'est d'aller voir au-delà ses sous-traitants. Et plus vous êtes gros, moins vous êtes capable de les maîtriser totalement dans le détail, je dirais, la batterie de fournisseurs ou de sous-traitants que vous avez en cascade. Et c'est sur les États qu'il faut mettre la pression, et pas de nouveau sur les entreprises.
Alors que pensez-vous, Christian Chavagneux, de ces critiques selon lesquelles une loi comme celle sur le devoir de vigilance ne peut finalement exister au minimum qu'au niveau européen ?
Oui, ça c'est un argument traditionnel hein, du patronat. On peut jamais rien faire pour lutter contre les paradis fiscaux, contre la responsabilité sociale des entreprises tant qu'on le fait pas au niveau mondial. Non, on a vu que par exemple sur les banques, on l'a fait en France et l'Europe nous a repris et j'espère demain le monde. Moi ce qui m'intéresse c'est concrètement, est-ce que le devoir de vigilance, est-ce que les plans de vigilance, parce que ça c'était mars 2017, on est fin 2018, ça devait démarrer là, décembre, enfin, on est même début 2019, ça devait démarrer en décembre 2018, où est-ce qu'on en est ? Nous on a publié un petit papier, on a fait une enquête pour savoir où est-ce qu'en sont les grandes entreprises françaises.
Est-ce qu'elles ont présenté leur plan ?
Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Déjà, on n'arrive pas à savoir combien il y a d'entreprises concernées. Bercy ne nous dit pas combien, on pense qu'il y en a entre 150 et 200 qui devraient donc publier leur plan de vigilance. Alors, quelques-unes l'ont fait, déjà, celles qui l'ont fait l'ont fait dans leur coin. Les syndicats n'ont pas été associés, les clients, toutes les parties prenantes, personne n'a été associé. Donc elles font ça déjà dans leur coin. Évidemment, comme on l'a bien vu avec les explications de Carole, on peut opposer ce qu'il y a dans le plan de vigilance. Donc évidemment, il faut en mettre le moins possible, parce que dès qu'on dit des choses, on peut aller piquer lorsqu'on est une ONG ou lorsqu'on est une victime, on peut aller piquer dans le plan de vigilance. Vous aviez annoncé ça, vous ne l'avez pas fait. Donc c'est des trucs...
Donc, la course au plan le plus restreint possible.
La course au plan le plus bas et le plus restreint possible. Et puis dernièrement, vous avez des entreprises qui ont dit, on ne fait rien. ArcelorMittal, rien du tout dans le plan. Auchan, oui, on va le faire, mais on le fera en 2019 parce que c'est trop loin. Donc pour l'instant, il faut pas leur taper dessus tout de suite, il faut pas les saisir les juges, parce que c'est un phénomène d'apprentissage. On y va doucement, elles découvrent ce qu'il faut mettre dans les plans. Nous, on découvre ce qu'on aimerait bien y voir. Donc il faut pas tout de suite les montrer du doigt, mais aujourd'hui, attention, soyons vigilants sur le plan de vigilance. Pour l'instant, ça reste trop mou.
Carole Péchaud.
Juste pour compléter, effectivement, les plans à l'heure actuelle sont très décevants. Comme le dit Christian Chavagneux, si on fait un peu preuve de sagesse, et contrairement à nos adversaires, les transnationales, on va attendre qu'elles prennent le temps. C'est vrai que si on remplit bien le plan tel que c'est dit dans la loi, pour une entreprise comme Total, ça peut faire 300 pages minimum, quoi. Donc c'est vrai que c'est un travail titanesque. Ceci étant dit, l'objectif de la loi était également symbolique et de montrer qu'on vit dans un monde un peu fou où la filiarisation et la structuration des entités économiques transnationales est folle et ne permet pas, en fait, vraiment de contrôler et donc d'être vigilant. Mais néanmoins, aujourd'hui, les plans sont pauvres, ils sont tout petits, il y en a qui les ont pas fait. C'est la première année, donc on va attendre un petit peu, mais il faut absolument que ça soit mis en œuvre, parce que le problème, en fait, c'est que la loi, elle existe. Maintenant, il va falloir tester la loi. À un moment donné, il va falloir la tester. Et en fonction de l'interprétation du juge, cette loi, elle va avoir une force très importante ou pas. Donc, évidemment que les entreprises ont tout intérêt à faire des plans les plus nuls possibles, si je puis m'exprimer ainsi, pour rabaisser le plus possible l'ambition du texte et la philosophie, on va dire, de la loi. Sur ce que dit Monsieur Gattaz, qui effectivement était un adversaire de taille pendant ces années, pas le seul, nous, en fait, on l'a pris au mot. Et on trouve ça très intéressant, puisque aujourd'hui, pendant 4 ans, on nous a dit « la France fait cavalier seul ». En termes de compétitivité, c'est la cata. Etc, etc, on pourra pas vous suivre. Aujourd'hui, on a la loi. Elle existe. Et il y a, au niveau onusien, un traité qui est en train d'être discuté. Quoi de mieux qu'internationaliser des contraintes ne pesant que ces entreprises françaises en soutenant un processus onusien? Et donc, c'est là-dessus qu'on joue aujourd'hui au niveau de l'ONU avec la France, qui a un rôle particulier puisqu'elle a une loi et c'est la seule qui a une loi, en leur disant, attendez, pendant 4 ans, vous nous avez dit que vous étiez seule, etc. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'être internationalisée. Allons-y. Et pour autant, ils sont quand même un petit peu frileux à ce stade.
Et justement, ce traité en préparation à l'ONU, où est-ce qu'il en est à l'heure actuelle, Carole Péchaud ?
Alors, il a commencé à commencer en 2014. Donc voilà, on avance petit à petit. On a eu un premier draft l'année dernière. Faire toute l'histoire serait un petit peu longue. Mais en tout cas, ce qui est intéressant et à retenir dans le traité à l'ONU, c'est qu'on assiste, si on revient à l'IND en fait, à ce qu'on appelle des vases communicants. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. À savoir, en 70, tentative par l'IND et d'autres d'avoir un dispositif international contraignant sur les multinationales. Échec de cette tentative avec l'arrivée de Kofi Annan, de John Rudgie, les principes directeurs, etc. Donc, on retourne vers le soft law. La France s'inspire de cette soft law, donc des principes directeurs, etc., pour en tirer le principe de due diligence, qui est devenu le devoir de diligence. Un principe soft law qu'on inscrit dans la loi dure. Et cette loi dure, qui est française, aujourd'hui, crante le processus onusien pour faire un instrument international contraignant. Donc on voit bien qu'en fait, on est en train, petit à petit quand même, d'avancer, même si c'est pas gagné, ce processus, il est loin d'être abouti. Ce qui est intéressant dans ce processus, c'est la position des États. Tous les États du Nord ont voté non à la résolution de 2014. Malgré ça, elle a quand même créé un groupe de travail qui, depuis 2014, bosse sur ce traité.
En revanche, les pays émergents sont davantage intéressés.
Les pays émergents sont davantage intéressés. Alors, pour quelles raisons exactement diplomatiques, d'opposition Nord-Sud, très complexes, on pourrait y revenir. Mais c'est eux, en tout cas, qui sont moteurs. Et donc, on attend tous les ans à Genève, il y a des négociations. Ça prendra peut-être 10 ans, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on met le focus, en fait, sur cette impunité, sur le fait qu'il n'existe aucune règle internationale actuelle pour encadrer ces acteurs, et que c'est une honte, c'est une asymétrie, c'est une injustice à laquelle il faut remédier.
Vous parliez tout à l'heure, Carole Péchaud, du fait qu'un certain nombre de firmes multinationales inscrivent dans le droit dur un certain nombre de règles. Et ce qu'on observe, c'est qu'en effet, certains grands groupes parviennent désormais à écrire les règles de la mondialisation. C'est ce que nous explique Mathieu Plane. Il est économiste à l'OFCE et ancien conseiller d'Arnaud Montebourg.
Étant donné la puissance des multinationales et des grands groupes, il est vrai que si un grand groupe souhaite se débarrasser d'une filiale qui est en France, il sera très facile pour elle d'organiser une difficulté ou une situation financière difficile qui permettrait de légitimer un licenciement. Et peuvent le faire, ce qu'on appelle par les prix de transfert, par la sous-traitance, et organiser ce type de situation difficile qui est une forme d'optimisation que peuvent réaliser les grands groupes. Ils le font déjà au niveau fiscal souvent. Le risque, c'est qu'ils le fassent aussi au niveau du marché du travail, notamment dans le secteur industriel. Il peut y avoir certaines situations qui peuvent être inquiétantes et dans lesquelles, à ce moment-là, l'État pourrait plus intervenir parce qu'effectivement, on a légitimé ce type d'opération, en tout cas en disant maintenant le périmètre national, pour être plus attractif et pour attirer les capitaux, et notamment les grands groupes, on dit on va faire ça. Par contre, le revers de la médaille, c'est le risque que certaines entreprises ou grands groupes décident de fermer des filiales en France et elles pourront l'organiser, à mon avis, assez facilement, même si apparemment les juges resteraient vigilants là-dessus.
L'optimisation fiscale qui se double d'une optimisation sociale, comme nous le dit Mathieu Plane, Christian Javagneux.
Oui, bien sûr, c'est le risque. On voit, heureusement, c'est pas la grande majorité des implantations des investisseurs étrangers en France, mais certains qui sont capables de venir nous chercher nos subventions et puis dès que ça marche pas, de partir à l'étranger en laissant les territoires dans une situation désolée. Il y avait dans des reprises d'entreprises françaises, enfin General Electric, lorsqu'ils avaient repris une partie d'une entreprise française, avait dit on va créer tant de milliers d'emplois et si on ne crée pas ces milliers d'emplois, alors il y aura des amendes par type d'emploi qu'on n'aura pas créé. On sait aujourd'hui que General Electric n'a pas du tout créé les emplois qu'elle aurait dû créer, et pourtant où est-ce qu'on en est? Alors je sais que Valérie Rabault, la députée socialiste, a écrit à Bruno Le Maire en lui disant, au fait, c'était 2018, la deadline, il manque des emplois, qu'est-ce que vous avez fait? A priori, le ministre n'a rien fait, mais c'est pas parce que les États ne peuvent rien faire. Là, c'est parce que les gouvernements qui sont là doivent prendre aussi en main les outils qui sont entre leurs mains.
Et sur le fait que les multinationales finissent par écrire elles-mêmes le droit, le sociologue Ulrich Beck dit que les firmes mettent en place un droit privé. On peut dire que ça vaut pour le droit du travail, mais aussi pour les normes techniques, par exemple, qui sont ensuite imposées à tous. Carole Péchaud.
Oui, tout à fait. De toute façon, ça peut être pour les normes privées, comme vous venez de dire, mais même dans les lois traditionnelles, hein, on va y revenir peut-être, mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est ça aussi qui, à mon sens, doit être dénoncé, c'est que les lobbyistes, les entreprises ont accès, beaucoup plus que les associations ou les syndicats, à des informations en amont sur des réglementations futures, et qu'elles peuvent influer, qu'elles peuvent soumettre leurs papiers, qu'ensuite, si elles n'arrivent pas par le biais de l'Assemblée nationale, par exemple, elles vont tenter par le biais du Conseil d'État ou du Conseil constitutionnel. Donc, en fait, il y a une captation de tous les espaces d'élaboration du droit par des acteurs transnationaux qui y mettent leurs intérêts. Et c'est ça qui est extrêmement complexe. Il y a un rapport que je voulais citer des Amis de la Terre et de l'Observatoire des multinationales à ce sujet qui est excellent, qui s'appelle... c'est sur les SAGE, donc c'est Conseil constitutionnel et Conseil d'État, et qui raconte la loi de hydrocarbures de Nicolas Hulot, mais également la loi devoir de vigilance, l'évasion fiscale, enfin, qui illustre très précisément des cas où le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État vont être complètement capturés par des intérêts d'associations patronales type le MEDEF ou autre, pour finalement ou casser des lois qui ont été votées démocratiquement pour pas que ça les lèse, ou bien en amont faire passer des recommandations qui servent leurs intérêts.
Mais pour autant, Christian Chavagneux, il ne faudrait pas imaginer un grand lobby mondial des multinationales qui se battraient de façon uniforme. C'est beaucoup plus complexe que cela.
Oui, bien sûr, les multinationales se battent entre elles aujourd'hui. Enfin, ce matin, dans le Financial Times, le quotidien britannique, il y avait un papier très intéressant qui montrait que certains chefs d'entreprise qui sont proches de Donald Trump sont pour le protectionnisme, alors que d'autres multinationales type Apple, Amazon... Apple, qui a des problèmes en Chine aujourd'hui du fait du protectionnisme de Trump, sont contre. Donc il y a y compris des batailles entre les entreprises auprès des pouvoirs publics. Faut surtout pas croire qu'il y a un grand complot mondial de l'ensemble des multinationales pour aller contre les États. Il y a des batailles aussi entre les multinationales.
Et puis par ailleurs, depuis la fin des années 90, se sont développés les tribunaux arbitraux privés qui permettent de contourner la loi. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots, Carole Péchaud, peut-être comment est-ce qu'ils ont émergé et comment est-ce qu'ils fonctionnent, ces tribunaux arbitraux privés?
Ces tribunaux, ça fait très très longtemps qu'ils existent, mais on a peut-être pas le temps de faire tout l'historique. Maintenant, ce qui est intéressant avec le sujet que vous traitez, c'est vraiment de mettre les deux côte à côte, c'est-à-dire la symétrie justement entre d'un côté les droits humains et de l'autre le droit commercial, ou ce qu'on appelle la lex mercatoria, et qui est régi par ces tribunaux dont vous venez de parler. Et donc en fait, on assiste côté droit commercial, donc ce qu'on appelle la lex mercatoria, à la possibilité pour des transnationales de saisir un arbitre privé, donc une privatisation de la justice, lorsque leurs intérêts sont lésés par une politique publique d'un d'un État qui contrevient à leurs intérêts commerciaux. Donc, par exemple, il y a Veolia qui a attaqué l'Égypte parce que l'Égypte avait décidé d'augmenter le SMIC. Et donc, Veolia s'estimait lésée, donc elle a attaqué. Donc, en fait, c'est la possibilité d'un côté, l'ex-mercatoria, vous avez des entreprises extrêmement puissantes, transnationales, qui peuvent saisir un tribunal privé, donc des arbitres privés qui sont payés, qui sont très onéreux, pour attaquer des politiques publiques étatiques qui peuvent être positives pour la population. Et de l'autre côté, droits humains, et donc tout ça est du droit dur, hein. C'est du droit contraignant. Et de l'autre côté, droits humains, vous avez des victimes, qui sont pas transnationales, qui sont des êtres humains comme vous et moi, qui n'ont accès à aucune forme de justice, si leurs tribunaux nationaux sont défaillants, ce qui est parfois le cas. Au niveau international, elles n'ont accès à aucune justice et elles ne peuvent se saisir de rien pour faire valoir leurs intérêts. Donc on assiste vraiment à une asymétrie énorme et qui est atroce, insupportable, entre des grands groupes qui vont bénéficier d'une justice privée pour leurs intérêts et des populations qui n'ont rien. Et pour finir, et ce qui illustre le mieux cette asymétrie-là, c'est le cas de Chevron Texaco, que vous connaissez peut-être, mais qui est un cas emblématique en fait de cette folie dans laquelle on est aujourd'hui. Ce sont des communautés en Équateur, donc ça pourrait être que l'Équateur aussi porte le traité à l'ONU, des communautés en Équateur qui ont été lésées par Texaco à l'époque, qui n'était pas encore Chevron, déversement d'hydrocarbures, pollution, déforestation, enfin la totale et le classique entre guillemets. 20 ans de bataille des communautés pour essayer que les tribunaux d'Équateur reconnaissent la responsabilité de Chevron Texaco et puissent indemniser les dommages. Ce qu'a fait la Cour constitutionnelle équatorienne à hauteur de environ 9,5 milliards de dollars.
Et Chevron Texaco a ensuite attaqué.
Et qu'est-ce qui s'est passé ? Chevron Texaco, en parallèle, était déjà en train de ficeler sa riposte et a fait appel à la Cour de La Haye, qui était un tribunal d'arbitrage privé, qui a donné une décision en août de dernier pour dire non, on va annuler la sentence équatorienne. Et donc on voit comment le droit du commerce, l'ex mercatoria, vient percuter même les combats les plus beaux, parce que très rares, liés aux droits humains.
Alors on arrive malheureusement presque à la fin de cette émission, mais simplement un dernier mot peut-être sur cette mobilisation des opinions publiques nationales de plus en plus forte, cette mobilisation des ONG dont on a le sentiment qu'elle est croissante. Est-ce que selon vous, l'un et l'autre, vous restez optimiste sur la capacité des sociétés civiles à faire évoluer les choses, Christian Chavagneux et Carole Péchaud, d'un mot ?
Depuis le début des années 2000, je trouve que la société civile se mobilise de plus en plus et surtout avec un niveau de technicité de plus en plus haut en termes de juridique, en termes économiques. La capacité technique absolument incroyable sur le sujet que je suis beaucoup, qui est BEPS, donc la façon dont l'OCDE lutte contre les pratiques fiscales douteuses des multinationales. Les commentaires juridiques sont de très très haut niveau. Moi, j'ai très confiance dans cette capacité, cette mobilisation.
Carole Péchaud, d'un mot ?
Oui, d'un mot. Bah, évidemment, je ne vais pas dire que je ne suis pas mobilisée, parce que j'ai quand même donné beaucoup pour l'association. Je continue à y être. Je pense qu'il faut se souvenir que c'est l'action collective qui fait gagner les batailles. Et ça, c'est très important. Et je voulais juste profiter quand même pour dire que le 22 janvier, il va y avoir une grande campagne qui va être lancée par beaucoup d'ONG, le CCL des Terres Solidaires, ATTAC, Amis de la Terre et d'autres, et également des syndicats, qui s'appelle « Des règles pour les multinationales, des droits pour les populations » et qui vient justement mélanger ces sujets que vous avez abordés pour demander plus de justice pour les victimes.
Eh bien, le rendez-vous vous est pris. Merci beaucoup à tous les deux. Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de revenir aujourd'hui sur la révélation par un journal néerlandais d'une stratégie d'optimisation fiscale qui aurait permis à Google de déplacer près de 20 milliards d'euros vers les Bermudes.
Mais oui, une révélation qui semble pourtant s'être perdue dans les limbes d'une actualité foisonnante. Il faut dire que la période des fêtes, d'habitude si calme, est occupée presque entièrement ces jours derniers par la contestation politique et sociale des Gilets jaunes dont l'ampleur continue de sidérer médias et politiques. Il faut dire aussi que cette révélation n'est que la dernière en date d'une série de scandales financiers, stratégies d'optimisation et d'évasion fiscale, au regard desquels les 20 milliards d'euros déplacés par Google semblent faire presque pâle figure. Panama Papers, Paradise Papers, Malta Files, LuxLeaks, SwissLeaks, on pourrait continuer longtemps cette liste de noms barbares qui semblent, par leur simple évocation, révéler le sentiment d'impuissance qui nous saisit face à ces stratégies d'évitement sans fin.
D'autant que, comme bien souvent, ces montages financiers et juridiques sont tout ce qu'il y a de plus légal.
Mais oui, c'est d'ailleurs ce que rétorque Google lorsqu'on lui oppose le peu de moralité de ses pratiques fiscales. En 2017, le géant de la Silicon Valley rappelait ainsi dans un communiqué qu'il était dans la plus parfaite légalité et qu'il payait chaque année, rubis sur l'ongle, les taxes qu'il devait à chacun des États concernés. Est-il besoin de préciser qu'une fois mis en œuvre tous ces mécanismes juridiques d'optimisation et d'évitement fiscal, les sommes effectivement dues au fisc se trouvent en réalité réduites comme peau de chagrin ? En 2017, la firme de Mountain View a ainsi payé en France à peine plus de 14 millions d'euros sur les bénéfices.
Un montant dérisoire comparé aux impôts payés par par les autres entreprises.
Absolument. Une étude de la Commission européenne estime ainsi que les GAFA ne seraient imposés en moyenne qu'à hauteur de 8% de leurs profits, contre 20% à 23% pour les entreprises dites classiques. En l'occurrence, le montage choisi par la firme américaine, connue sous le nom poétique du double sandwich irlandais-néerlandais, consiste en une série de sociétés écrans permettant de délocaliser les bénéfices à Singapour, aux Pays-Bas ou aux Bermudes. La loi irlandaise autorisant ce subtil arrangement doit être rectifiée en 2020, mais gageons que la firme aura trouvé d'ici là de nouveaux sentiers de l'évasion. L'administration fiscale a bien tenté en 2014 de lui infliger un redressement fiscal record d'1,1 milliard d'euros, mais Google a réussi à faire annuler cette sanction en justice.
Le gouvernement français a néanmoins annoncé vouloir mettre en œuvre une taxe sur les géants du numérique, comme on commençait à l'évoquer tout à l'heure.
Absolument, on peut dire que l'une des conséquences au moins indirectes des manifestations et mobilisations de cette dernière semaine aura été de rappeler au gouvernement la nécessité d'une plus grande justice fiscale. Cette impression d'une fiscalité à deux vitesses était ainsi profondément ancrée dans les doléances des gilets jaunes, réclamant non pas de ne plus payer d'impôts, mais de voir la charge de l'effort économique et fiscal mieux répartie avec les autres acteurs. La France a donc annoncé qu'elle allait taxer le chiffre d'affaires des géants du web à hauteur de 3%, une nouvelle imposition qui devrait rapporter 500 millions d'euros au Trésor dès 2019.
Le problème, c'est qu'une telle taxe ne règle en rien les problèmes d'optimisation fiscale à laquelle s'adonnent ces mêmes GAFA.
Non, effectivement. Et si l'on peut saluer l'apparente détermination dont semble faire preuve le gouvernement pour mettre en place une taxation longtemps promise mais jamais réalisée, le dispositif choisi par ce dernier semble problématique à plus d'un titre. Non seulement, comme vous le disiez, ce mécanisme n'empêchera pas les stratégies de contournement de l'impôt, puisqu'il faudrait pour cela à minima un accord européen pour empêcher le dumping fiscal et les paradis fiscaux au sein même de l'Union, mais en plus il n'est même pas certain que cette loi soit un jour réellement mise en œuvre. Prévue pour entrer en vigueur dès le 1er janvier 2019, de nombreux experts se montrent dubitatifs sur la possibilité d'introduire une taxe qui n'a même pas été votée. Il y a ainsi fort à parier qu'il ne soit pas constitutionnel de faire appliquer une taxe rétroactivement. Il faudra donc attendre encore quelques semaines avant de savoir si derrière l'effet d'annonce se cache une vraie proposition ou simplement une nouvelle stratégie d'évasion.
C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les deux, Christian Chavagneux et Carole Péchaud, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Christian Chavagneux, je rappelle votre ouvrage coécrit avec Marie Louis, Le pouvoir des multinationales, publié en octobre dernier au PUF. On se retrouve demain à 14h pour une émission consacrée à la reconquête du pouvoir par les salariés. En attendant, n'hésitez pas à écouter ou réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.